Bonsoir à tous, il est 19h à Paris, 21h à Mamoudzou. Bienvenue dans l'édition du soir sur RFI, avec à venir une édition spéciale consacrée au nouveau gouvernement de François Bayrou. Mais tout de suite, c'est le Grand Journal.
RFI Soir. Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, un nouveau gouvernement pour Noël, c'est fait, il vient d'être annoncé, 34 ministres avec des reconductions et des surprises, notamment le retour des anciens premiers ministres Elisabeth Borne et Manuel Valls. Tous les détails dans un instant avec Victorien Villaume du service politique. Drapeau en berne et minute de silence, la France a observé une journée de deuil national aujourd'hui pour entourer les Mahorais après le cyclone dévastateur à Mayotte, où l'aide peine toujours à arriver. En Syrie, deux semaines après la chute du régime d'Al-Assad, nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Boris Vichit ont retrouvé la trace de trois enfants français d'une même fratrie qui vivent depuis 5 ans dans un orphelinat à Damas. Reportage exclusif à suivre dans ce journal. Enfin, le Japon relance la chasse à l'ours après toute une série d'attaques d'ours bruns et d'ours noirs. Qui profite eh bien, de l'abandon des campagnes pour se reproduire en toute tranquillité.
RFI Soir.
Avant Noël, avait promis François Bayrou, promesse respectée, le nouveau gouvernement vient d'être annoncé il y a quelques minutes avec un casting Victorien Villaume et quelques surprises.
Oui, Véronique, et comme le veut la tradition, c'est le secrétaire général du palais de l'Élysée, Alexis Kohler, qui dans le jardin d'hiver de l'Élysée a égrené sobrement pendant 2 minutes la liste des nouveaux ministres. Alors sur le fond, François Bayrou souhaitait une équipe resserrée. Finalement, ils sont 34, pas vraiment d'équipe resserrée, pas vraiment de changement. Donc d'ailleurs, puisqu'il y avait 39 ministres dans l'équipe du prédécesseur Michel Barnier, on nous promettait une équipe de poids lourds comprenant des responsables politiques connus et qui ont occupé de hautes fonctions. Eh bien, sachez que 2 anciens premiers ministres arrivent au gouvernement. Elisabeth Borne devient ministre, entre autres, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et puis, c'est aussi le retour qui devrait beaucoup faire réagir de Manuel Valls, qui devient ministre de l'Outre-mer. Manuel Valls, qui avait été premier ministre sous François Hollande. En revanche, pas de Xavier Bertrand, considéré comme un poids lourd de droite. Le ministère de la Justice lui échappe parce que le Rassemblement National, on l'a appris, en fin de journée, était fermement opposé à cette option. Notons aussi la présence de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui prend le portefeuille de la justice. Véronique, on se souvient que Michel Barnier, au contraire, avait choisi des ministres qui étaient peu ou pas connus, en tout cas qui n'avaient pas d'ambition affichée pour la présidentielle de 2027.
Victorien Villaume du service politique de RFI. Nous reviendrons sur la formation de ce nouveau gouvernement dès la fin de ce journal édition spéciale sur RFI. Et en attendant ce gouvernement, eh bien la France a marqué aujourd'hui une journée de deuil national en solidarité avec Mayotte, le département d'outre-mer dévasté il y a un peu plus d'une semaine par le cyclone Chido, le cyclone le plus dévastateur depuis 90 ans qui aurait fait au moins 35 morts et 2500 blessés selon des bilans encore toujours très provisoires. Les Mahorais sont dans le cœur de tous les Français. Les victimes dans nos mémoires, a dit le président Macron sur le perron de l'Élysée. Une minute de silence également observée à Mamoudzou, à Mayotte, où les secours s'organisent, mais où l'aide peine toujours à arriver. On retrouve sur place Nicolas Feldman avec Jad El Khoury.
Alors moi ce que je retiens c'est le réconfort on va dire qui vient du national où on a tout le soutien de la nation qui nous encourage parce qu'on a vraiment besoin de ces moments de réconfort hein, parce que ça a été très 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 compliqué donc ça nous aide à tenir et puis à faire en sorte parce qu'on puisse se reconstruire notre île.
Je ne savais pas s'il y avait une journée de deuil national, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion, du coup c'est normal qu'on ne savait pas si une journée comme ça, c'est pas la priorité.
J'aimerais que les choses bougent d'abord avant qu'on fasse une journée de deuil. On a tout perdu et on voit personne venir nous voir déjà. Moi, j'ai perdu la toiture de la maison. Ça ne changera rien pour moi.
On a conscience du soutien. Tout le monde a réussi à avoir des messages quand on a l'électricité. C'est vrai que ce deuil national, c'est quelque chose. Mais nous, ici, on est à J8 du cyclone. On n'a toujours pas d'électricité. Les centres d'hébergement n'ont plus à manger. Donc concrètement, c'est vraiment une catastrophe. Et quand est-ce que va venir l'aide? Donc la minute de silence, oui, mais l'aide avant tout.
Voilà des propos recueillis à Mamoudzou par notre envoyé spécial Nicolas Feldman. Également dévasté par le cyclone Chido au Mozambique. Eh bien, le bilan s'est alourdi à 120 morts aujourd'hui et 900 blessés, selon les chiffres de la protection civile. En Syrie, deux semaines après la chute du régime d'Al-Assad, nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Boris Vichit ont retrouvé la trace de trois enfants français d'une même fratrie qui vivaient depuis 5 ans dans un orphelinat à Damas. Leurs parents, djihadistes, ont été tués en 2019 dans des bombardements de la coalition internationale contre l'État islamique. L'orphelinat qui les accueille espère qu'avec le changement de régime en Syrie, ils seront rapidement rapatriés en France. Reportage exclusif de RFI et de Radio France.
Sur l'aire de jeu de cet orphelinat de Damas, une fillette enjouée, toute de rose vêtue, se jette dans les bras de la directrice. Cette enfant, dont nous tairons le nom, est française, elle a 6 ans et est arrivée ici en 2019 avec son frère et sa sœur, âgés aujourd'hui de 11 et 12 ans. Ils ont été amenés par les services de renseignement syriens, raconte la directrice de l'orphelinat. Appelons-la Sarah.
Les enfants sont arrivés ici avec un document des services de renseignement. Leur nom et celui de leur mère étaient faux. Ce sont les enfants qui m'ont raconté que leur mère était morte, qu'il y avait eu des bombardements, beaucoup de morts. Leur père aussi est mort.
Les parents des enfants, des djihadistes français, ont été tués lors des opérations de la coalition internationale contre l'État islamique dans la région de Deir ez-Zor. Avant de mourir en 2019, la mère les confie à une amie qui les emmène avec elle. Mais ils finissent par être arrêtés par les services de renseignement syriens qui les confient à l'orphelinat à Damas. La directrice tente alors de prendre contact avec leur famille en France, mais sous le régime de Bachar el-Assad, la censure est totale.
La mère, avant de mourir, avait des contacts avec la tante des enfants. Mais je n'avais pas le droit d'en avoir. On m'a fait signer un papier dans ce sens. Si je disais quoi que ce soit, j'aurais atterri à la prison de Seydnaya. Le seul contact avec la famille des enfants qui m'était autorisé, c'était à travers le Croissant Rouge. C'était risqué. Mais on a réussi à organiser des appels vidéo entre les enfants et leur tante tous les jeudis.
La directrice de l'orphelinat s'est fait un devoir de maintenir ce lien entre les enfants et leur tante qui se bat pour les rapatrier en France. Mais elle dit n'avoir eu aucun contact avec les autorités françaises durant ces 5 dernières années. Avec le changement de régime en Syrie, les choses vont peut-être bouger, espère une autre responsable de l'orphelinat que nous appellerons Zeynab.
J'espère qu'on va prendre soin d'eux maintenant, qu'ils pourront rejoindre leur tante. La France doit s'en occuper. Les enfants vivent dans un bon environnement ici. Ils sont loin du terrorisme. Leur éducation est très bonne. Ils apprennent l'anglais. Quand ils retourneront en France, ils seront comme les autres enfants. Il n'y aura pas de différence. La France ne doit pas laisser ses enfants dans un pays qui n'est pas le leur.
La France a toujours été réticente à rapatrier les femmes djihadistes et leurs enfants détenus en Syrie. Elle avait en revanche promis de s'occuper des orphelins. Muriel Paradon, Boris Vichit, de retour de Damas, RFI.
Et sur le plan diplomatique, 2 semaines après la chute de son allié Bachar el-Assad, eh bien l'Iran affirme son soutien à la souveraineté de la Syrie tout en affirmant ne pas avoir de contact direct avec les nouveaux dirigeants syriens. Les délégations étrangères continuent en tout cas de se succéder à Damas où le nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Shari, eh bien reçu aujourd'hui une délégation à Qatari et le chef de la diplomatie jordanienne. À Amman, la correspondance de notre correspondant Mohamed Erami.
Ayman al-Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, s'est rendu à Damas pour rencontrer Ahmad al-Shara, chef de la nouvelle administration syrienne. Cette visite, la plus élevée depuis des années entre la Syrie et un pays arabe, s'est concentrée sur 3 points principaux. D'abord, la reconstruction des institutions syriennes. La Jordanie a proposé son aide pour accélérer la transition et stabiliser le nouveau gouvernement. Ensuite, la sécurité. Amman insiste sur la nécessité de mettre fin au trafic de drogue et d'armes qui menacent les frontières communes. Enfin, la question des réfugiés syriens. La Jordanie refuse de forcer les Syriens à rentrer, mais appelle Damas à créer les conditions d'un retour volontaire et sécurisé. Une visite hautement symbolique qui montre l'implication croissante de la Jordanie dans la région.
Aux États-Unis, interpellé par des organisations de défense des droits humains, le président Biden a finalement commué la peine de 37 condamnés à mort en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Une clémence qui intervient moins d'un mois avant l'investiture de Donald Trump, fervent partisan de la peine capitale. À New York, les précisions de Lubna Anaki.
C'est l'une des décisions les plus radicales contre la peine de mort dans l'histoire récente des États-Unis. Joe Biden commue la peine de la quasi-totalité des prisonniers se trouvant dans le couloir de la mort de la justice fédérale. Ils vont désormais purger une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Seuls 3 autres prisonniers jugés pour des actes de terrorisme et des fusillades de masse restent condamnés à la peine capitale. Je suis plus que jamais convaincu que nous devons arrêter de recourir à la peine de mort au niveau fédéral, a expliqué Joe Biden, tout en apportant son soutien aux familles des victimes. Cette décision concerne uniquement les prisonniers condamnés par la justice fédérale. Il faut savoir que les États, eux, recourent bien plus souvent à la peine de mort. Il y a aujourd'hui près de 2300 prisonniers en attente d'exécution dans le pays. En arrivant à la Maison-Blanche, Joe Biden avait signé un moratoire sur les exécutions au niveau fédéral. Avec le retour de Donald Trump, les organisations de défense des droits humains redoutent une vague d'exécutions. Le républicain étant un fervent partisan de la peine capitale. Lors de son premier mandat, il avait relancé les exécutions au niveau fédéral après 17 ans d'interruption. Lubna Anaki, New York, RFI.
En Europe, c'est une visite qui ne passe pas du tout pour Volodymyr Zelensky, celle de Robert Fico à Moscou hier. Le président ukrainien accuse le premier ministre slovaque de vouloir aider Vladimir Poutine à gagner de l'argent pour financer la guerre avec Kiev. Au cœur de l'affaire, l'approvisionnement en gaz. Précision Julien Chavan.
Les deux hommes se sont retrouvés comme deux vieux amis, poignée de main et grand sourire entre Vladimir Poutine et Robert Fico hier au Kremlin. Le dirigeant slovaque était surtout venu parler de gaz. La Slovaquie est très dépendante des livraisons russes, mais dans quelques jours, à la fin de l'année, son approvisionnement par l'Ukraine sera coupé. Kiev n'a pas renouvelé son contrat avec Moscou. Et ce n'est pas qu'une question énergétique pour le dirigeant slovaque. Selon l'entourage du président ukrainien, Bratislava ferait d'énormes bénéfices grâce à des ristournes sur le gaz russe. Le but principal de Robert Fico est de faire des affaires avec la Russie, attaque Volodymyr Zelensky dans un long message publié sur le réseau X. La semaine dernière, déjà à Bruxelles, il avait mis en garde ceux qui voudraient faire de l'argent sur le sang des Ukrainiens. L'opposition en Slovaquie a elle aussi critiqué ce déplacement, consternée par ce rapprochement, alors que le pays est membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Mais ce n'est pas le premier à faire ce voyage. Le Hongrois Viktor Orban était à Moscou l'été dernier, là encore pour assurer ses livraisons de gaz pour l'hiver.
Le président Zelensky qui affirme par ailleurs que 3000 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans la région russe de Kursk, alors que la Corée du Sud en annonçait ce matin plus de 1100. Séoul qui estime également que la Corée du Nord s'apprête à envoyer de nouvelles troupes en Russie, ainsi que des livraisons d'armes. Le Japon va assouplir ses lois très strictes sur la chasse pour faciliter la chasse aux ours. Le pays asiatique fait en effet face à de plus nombreuses attaques d'ours bruns et d'ours noirs. Les deux espèces présentes sur l'archipel en cause notamment une population d'urcidés en augmentation, l'abandon des zones rurales par la population et le réchauffement climatique. Explication Lucille Gimbert.
Il y a plus de 50 000 ours au Japon. C'est 3 fois plus qu'il y a une dizaine d'années. La population d'ursidés a pu se reconstituer car les campagnes d'extermination qui avaient accompagné l'extension des villes à partir des années 60 au Japon ont cessé dans les années 90. Deuxième facteur, la population humaine, elle, diminue et les zones rurales se dépeuplent. Les agriculteurs japonais abandonnent les rizières et les champs, des zones qui jusque-là faisaient tampon entre les montagnes, territoire des ours, et les villes. Enfin, le réchauffement climatique pousse les ours à se rapprocher des habitations. En forêt, la hausse des températures affecte la croissance des plantes et la production de fruits et de noix que mangent les ours. Les faines de hêtres, les glands, les châtaignes, l'hibernation est aussi perturbée. Les ours restent éveillés et actifs plus longtemps. Résultat, les attaques se multiplient. Des randonneurs en montagne, une adolescente à un arrêt de bus, un employé de supermarché. En assouplissant les règles pour tirer des ours, le Japon espère freiner ces agressions parfois mortelles. Mais mais d'autres stratégies existent. Gestion des déchets, système de démarcation, chiens de surveillance pour tenter de mieux coexister.
Il est 19h15 sur RFI, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, édition spéciale sur le nouveau gouvernement de François Bayrou.
Édition spéciale sur RFI, Véronique Rigolet.
Édition spéciale alors que vient d'être annoncé le gouvernement de François Bayrou, juste avant Noël, promesse tenue. Mais est-ce pour autant le cadeau qu'attendaient les Français pour mettre fin à l'instabilité politique qui bouscule la France depuis la dissolution orchestrée par Emmanuel Macron en juin dernier ? Et on en parle ce soir avec nos invités, Émeric Durox, sénateur Rassemblement National de la Seine-et-Marne, Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, également en ligne avec nous, Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCBG Conseil, et à mes côtés, Aurélien Devernoy du service politique. Bonsoir à vous, bienvenue sur RFI.
Bonsoir.
Et pour commencer, je me tourne vers vous, Aurélien. Un mot sur ce casting quelque peu surprenant de ce gouvernement qu'on attendait depuis une dizaine de jours.
Alors, surprenant, oui et non, dans le sens où on s'attendait déjà depuis plusieurs jours à certains retours, celui d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre, qui entre dans ce gouvernement comme numéro 2 du gouvernement. Elle va être ministre de l'éducation, du numérique, enfin un très gros poste. Et il y a aussi un autre récemment ministre, c'est Gérald Darmanin, qui était à l'intérieur et qui cette fois passe garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des retours un peu plus étonnants, et notamment celui de l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui devient numéro 3 de ce gouvernement, sur un poste qui, jusque-là, n'était pas forcément autant mis en avant, mais qui, avec les crises actuelles, notamment à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les Antilles, devient vraiment assez critique, c'est le poste de ministre de l'Outre-mer. Donc ça, déjà, c'est un gros retour. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un retour de très proches ou de fidèles, en fait, d'Emmanuel Macron. Il y a Aurore Berger qui revient aux discriminations, Amélie de Montchalin qui va être chargée du budget. Il y a aussi des entrées de nouveaux ministres LR, notamment Véronique Louwagie, à l'économie sociale et solidaire, ou encore Sophie Primas qui devient porte-parole du gouvernement. Donc voilà, il y a, si vous voulez, un nouveau socle commun qui se rebâtit plus ou moins sur ce qui avait été fait avec Michel Barnier, mais avec l'arrivée d'ex-figures de la gauche et qui, en tout cas, aujourd'hui, ne sont pas liées au NFP. Outre Manuel Valls, il y a aussi François Rebsamen, l'ancien maire de Dijon, et puis Juliette Méadel, qui est une proche de Manuel Valls, qui arrive au ministère de la Ville.
Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que le Premier ministre a réussi, à votre sens, à élargir le socle commun? Est-ce là le gouvernement d'intérêt général que voulait Macron et qui permettra d'éviter la censure?
Gouvernement d'intérêt général, il est trop tôt pour le dire, mais après, c'est plus un gouvernement Barnier 2 ou un gouvernement Macron. Très probablement, c'est pas l'orientation qu'aurait souhaité François Bayrou à la base, parce que lui rêvait de faire une alliance avec la gauche, la droite modérée, le parti présidentiel pour composer une alliance de gouvernement. Visiblement, c'est plus l'option de l'alliance à la droite, assez à droite même, avec Darmanin, Retailleau, sur des postes régaliens extrêmement importants, police, justice, et clairement un ancrage. Ça a été marqué tout de suite par Xavier Bertrand, qui a fait un communiqué avant celui du gouvernement pour dire que le gouvernement serait ancré sur le RN, autour du RN, et que pour lui, il n'était pas question de participer. Un autre ancien ministre, Roland Lescure, a tenu exactement le même discours. Donc on risque d'avoir un paradoxe. François Bayrou, figure centriste, l'inventeur du en même temps, quelque part, qui va se retrouver à la tête d'un exécutif très à droite, ancré sur le RN une nouvelle fois, donc dans la même situation que Michel Barnier.
Émeric Durox, vous êtes sénateur Rassemblement National de Seine-et-Marne. Que pensez-vous de ce nouveau gouvernement? Et tout d'abord, est-ce que le RN est intervenu dans la formation de ce gouvernement, comme le dénonce Xavier Bertrand ce soir?
Bonsoir. Écoutez, non, nous ne sommes pas intervenus directement.
Ou indirectement.
On peut constater en effet que le gouvernement ou la Macronie propose et le RN dispose. Mais de toute façon, pourquoi nous sommes dans cette situation-là un petit peu, il est vrai, d'arbitre, parce qu'il y a une situation complètement baroque avec la gauche qui, dès le départ, a annoncé qu'elle censurait. Et donc, si ce gouvernement veut survivre, il doit au moins s'attacher à une forme de neutralité. Mais nous, nous avons dit que de la part du troisième bloc, c'est-à-dire nous nous avons dit de toute façon depuis le début que même si, évidemment, on peut critiquer ce casting, hein, c'est les derniers mohicans du macronisme, hein, c'est vraiment c'est un petit peu catastrophique. D'ailleurs, si ce gouvernement tombe, il n'y aura plus personne. Mais nous, on ne va pas censurer a priori, on jugera sur pièce, et notamment sur le budget, parce qu'on a besoin d'un budget qui répare la France, qui en a grand besoin. Donc attendons, mais en effet, je suis pas très confiant, je suis pas très optimiste pour la survie à long terme de ce gouvernement.
Tout dépendra du discours de politique générale du Premier ministre Bayrou le 14 janvier prochain. C'est là que vous déciderez de la conduite à tenir, de la censure ou pas ?
Non, parce que l'exercice, le discours de politique générale est un discours assez convenu. D'ailleurs, on peut dire des choses qu'on ne respecte pas par ailleurs. On l'a vu avec M. Barnier. Non, on verra le budget qui sera a priori construit au mois de février. Et si ce budget-là respecte nos lignes rouges, parce que nous sommes un parti de gouvernement qui a vocation à diriger la France, eh bien, peut-être que ce gouvernement-là, contrairement au précédent, survivra à une éventuelle censure. Mais pour l'instant, voilà, d'un point de vue extérieur, je crois que c'est pas ce que les Français attendaient. Le message envoyé, c'est un petit peu voter, ça ne sert à rien, censurer, ça ne sert à rien, je reprends les mêmes, voire les anciens qui étaient là auparavant, et on continue. Je crois que c'est pas le bon message à envoyer.
Pourquoi vous doutez de la survie de ce gouvernement particulièrement ?
Bon, parce qu'il y a énormément de figures qui ne sont pas appréciées des Français, parce que, par exemple, M. Bayrou a dit qu'il était d'accord pour rediscuter de la réforme des retraites, et il nomme en numéro 2 Mme Borne, qui est l'artisan de cette réforme des retraites. Donc il y a plein de messages contradictoires. Moi, par exemple, ancien professeur d'histoire-géographie, je vois revenir Mme Borne, qui avait nommé Pape Ndiaye, funeste ministre de l'Éducation nationale, complètement c'est pas des bons signaux qui sont envoyés, même à ce qui reste de leur base, et je crois qu'en fait, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose.
Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, que pensez-vous ce soir on écoute Thomas Porte, le député LFI de Seine-Saint-Denis, qui dénonce un gouvernement à droite.
Elisabeth Borne, première ministre des 49-3 à la tête de l'éducation nationale. Gérald Darmanin, ministre des violences policières à la tête de la justice. Bruno Retailleau, qui reprend les obsessions racistes et qui est maintenu au ministère de l'Intérieur. C'est un gouvernement à droite toute. Et toutes celles et ceux qui, y compris dans nos partenaires, ont pu croire à un moment qu'il y avait une opportunité de discuter, qu'on pouvait avoir un soi-disant soit accord de non-censure, soit une espèce de gouvernement d'union nationale, sont ce soir fixés par la vérité des prix. C'est un gouvernement très à droite, et dans les mains du Rassemblement national, une fois de plus, puisqu'ils se vantent eux-mêmes d'avoir empêché Xavier Bertrand de devenir ministre de la Justice. Donc Marine Le Pen a donné les derniers arbitrages pour que François Bayrou annonce ce gouvernement. C'est aussi ça l'information du soir. Personne ne voulait rentrer dans ce gouvernement, et il durera, à mon avis, moins longtemps que celui de Michel Barnier. Pour nous, la censure, elle est évidente.
Voilà, on vient d'écouter Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. C'est tout sauf une surprise, cette censure annoncée.
Par LFI, oui. Oui, par ça, LFI. De toute façon, c'est la position de la France insoumise depuis le départ. Ce qui est intéressant dans ce que dit Thomas Porte, c'est quelque part, il envoie ce message au Parti Socialiste, notamment puisque c'était eux qui étaient les plus ouverts à discuter avec François Bayrou. Il leur dit, mais regardez, il se moque de vous, quelque part. Et en effet, ce soir, du côté des socialistes, il y a quand même une certaine amertume. Le patron des sénateurs socialistes, Patrick Kanner, qui dit, c'est une forme de mépris, ce gouvernement. Et c'était pas le moins disposé à discuter avec François Bayrou. D'autres députés qui disent, c'est lunaire, c'est du nombrilisme, c'est du recyclage. C'est vraiment, il y a vraiment la sensation... non seulement que François Bayrou n'a pas du tout pris en compte ce qui avait pu être dit par les socialistes lors des différents entretiens qu'ils ont eus avec lui, mais qu'en plus, quelque part, peut-être l'influence d'Emmanuel Macron a encore plus ancré à droite son gouvernement. Et ça, ça va être
très
compliqué.
C'est de la provocation pour la gauche social-démocrate, comme on dit.
C'est une forme de provocation, même s'il y a en effet Manuel Valls, François Rebsamen et Juliette Méadel, mais qui sont plus de l'époque de François Hollande. Ça fera peut-être plaisir à François Hollande, on ne sait jamais.
Déjà ça.
Mais en tout cas, dans la perspective de négociations qui pourraient encore se tenir, puisque en gros, le Parti socialiste a laissé à François Bayrou jusqu'à sa déclaration de politique générale pour ouvrir des négociations, donc jusqu'au 14 janvier. Bien là, quand même, ces négociations semblent de plus en plus improbables. Et donc, les socialistes seraient de plus en plus tentés de voter à nouveau la censure. Et on se retrouverait dès la mi-janvier avec une configuration. Alors, on a entendu M. Durox qui disait que le RN ne censurerait pas a priori. Mais en gros, peut-être dès les discussions sur le budget et le vote du budget qu'on attend vers fin février, début mars, avec le risque d'une nouvelle motion de censure qui rassemblerait de nouveau le Rassemblement national et l'ensemble du Nouveau Front populaire.
On est déjà dans ce scénario un peu funeste de feu le gouvernement Barnier. Philippe Moreau, Chevrolet, tout va se jouer maintenant, hein, comme le disait Aurélien, avec la négociation ou non de ce pacte de non-censure avec la gauche pour le gouvernement. Ça, c'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné. Il y a deux facteurs qui peuvent sauver le gouvernement Bayrou, qui est une sorte de Barnier 2 en réalité, avec très peu de changements, à part peut-être l'arrivée de Juliette Méadel, qui est peut-être la plus jeune, en tout cas, de gauche du gouvernement à arriver là. Après, sur les deux choses qui peuvent sauver le gouvernement, le premier, c'est que le RN n'a pas forcément intérêt à remettre de l'instabilité dans le jeu. Les Français sont vraiment très inquiets, toutes les enquêtes le montrent. Il y a une demande de stabilité très forte. C'est l'une des premières fois dans l'histoire de la Ve République qu'on a une déclaration commune, syndicat, patronat, pour demander de la stabilité. Il n'est pas certain que le RN ait à gagner à provoquer crise après crise. Et puis l'autre facteur qui peut sauver ou aider François Bayrou à durer, c'est s'il parvient à négocier sur les retraites et à imposer à l'Élysée, après cette défaite, hein, parce que ce gouvernement, pour lui, c'est une défaite, il est ancré à droite, c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, mais peut-être qu'il peut l'emporter sur la question des retraites et imposer à l'Élysée, en contrepartie d'une stabilité, eh bien une réforme de la réforme, c'est-à-dire un changement de la réforme des retraites.
Aurélien Devernois, est-ce que vous pensez que François Bayrou, le Premier ministre, peut trouver un compromis, en tout cas faire des concessions à la gauche sur cette réforme des retraites afin... d'obtenir ce pacte de non-censure.
La question, c'est quelle marge de manœuvre il va avoir au sein de son propre gouvernement. Parce que finalement, des fidèles, ne serait-ce que des gens du Modem, il n'y en a pas tant que ça. Alors, il y a Jean-Noël Barrot qui reste ministre des Affaires étrangères. Il y a Patrick Mignola qui revient, qui était le patron des députés Modem sous la précédente mandature, qui va être ministre des Relations avec le Parlement, qui est un poste assez stratégique pour François Bayrou. Mais pour autant, tout autour, c'est quand même plutôt des gens qui ne sont pas forcément des grands amis de François Bayrou, y compris au sein du camp présidentiel. Et ça va être un vrai enjeu. Autre question, on n'en a pas parlé encore, mais le nouveau ministre de l'économie, qui est la seule figure non politique à être nommée ce soir, c'est Éric Lombard, l'ancien patron de la Caisse des dépôts et consignations, ministre de l'économie. Est-ce que lui, qui est plutôt libéral, qui a son destin qui est quand même assez lié à celui d'Emmanuel Macron, qu'il avait nommé dès 2017 à la tête de cette espèce de banque d'État, est-ce que lui pourra discuter avec François Bayrou sur la question des retraites qui va coûter de l'argent au pays, ne serait-ce que si on revient un petit peu en arrière, ça va coûter probablement plusieurs milliards d'euros. Je ne sais pas réellement quelle marge de manœuvre va avoir François Bayrou. Et d'ailleurs, on s'en rend compte dans ce gouvernement dont on n'a pas réellement l'impression que c'est François Bayrou qui l'a entièrement façonné.
Philippe Moreau, Chevrolet, en quelques mots, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On a déjà le calendrier, hein, Conseil des ministres le 3 janvier, déclaration de politique générale le 14. Est-ce que ce nouveau gouvernement va se mettre au travail tout de suite? Et est-ce que François Bayrou va continuer ses tractations pour essayer de sauver ce pacte de non-censure? C'est pas forcément un bon Noël qui s'annonce.
Non, il a quelques semaines, François Bayrou, pour arriver à empêcher une censure bis, sachant que tous les partis quasiment de son opposition ont déclaré qu'ils étaient prêts à le censurer. Donc la tâche, elle est colossale. Ce qui va se passer, c'est beaucoup de communication de François Bayrou pour essayer de créer un pacte de gouvernement, de négociation avec l'Élysée, puisqu'il va falloir négocier avec l'Élysée que l'Élysée accepte de lâcher du lest. Le problème de notre système, c'est qu'on a aujourd'hui un Parlement qui serait en capacité tout seul finalement peut-être de trouver une solution, mais un président qui ne veut pas que ce jeu se fasse. Donc on a véritablement un énorme problème institutionnel. Donc François Bayrou va essayer de le résoudre. Il y aura de la communication parce que probablement Manuel Valls va aller à Mayotte. On va avoir un petit peu de démonstration de force aussi des nouveaux ministres.
Aurélien de Vernois, c'est le président Macron qui a la solution s'il accepte un peu le détricotage de sa réforme des retraites en quelques mots, en deux mots.
En deux mots, probablement, mais comme depuis le départ Michel Barnier, c'est lui qui gère.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Aurélien de Vernois du service politique d'RFI. Merci au politologue Philippe Moreau-Chevrolet et au sénateur RN Emeric Durand.